Bonjour à tous, bienvenue dans 7 jours dans le monde, retour sur l'actu internationale de la semaine qui nous emmènera à Mossoul. Est-ce que la ville sera effectivement reprise avant l'été, comme l'affirme François Hollande? Istanbul, endeuillé par cet attentat sanglant du 1er janvier, revendiqué par Daesh. On ira également à New York. L'ONU, 5 ans d'impuissance en Syrie, et elle se dote, cette ONU, d'un nouveau secrétaire général. Et puis non loin, Washington DC, avec Barack Obama qui prépare ses adieux avant l'arrivée de Donald Trump le 20 janvier. C'est parti pour 7 jours dans le monde.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Et bonne année à tous, évidemment, 7 jours dans le monde, avec le professeur Jean-Luc Seron, professeur à Paris-Dauphine. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour et bonne année à vous.
Bonne année Jean-Luc, avec toujours d'actualité, faites l'Europe, pas la guerre. Oui, la guerre, on va malheureusement encore en parler dans un instant. Qatar Aboudia, bonjour.
Bonjour, bonne année.
Bonne année mon cher Qatar, consultant en géopolitique, enseignant à l'université Paris-Saclay, consultant au cahier de l'Orient. Alors justement, tiens, l'Orient, et c'était la deuxième fois qu'il se rendait en Irak, hein, depuis le début des frappes. Hein. D'ailleurs, c'est le seul dirigeant de la coalition à se rendre sur place. C'était François Hollande, lundi donc, qui est venu à Bagdad, qui est venu à Erbil, justement, dans le Kurdistan irakien, le chef de l'État qui prédit une année de victoire contre le terrorisme. Et il avance même des dates.
Nous n'en avons pas fini. Il y a Mossoul. Il nous a été confirmé que nous pouvions atteindre cet objectif autant qu'il sera possible, au printemps, en tout cas avant l'été.
Voilà, avant l'été, nous dit François Hollande. Oui, je le disais, c'est la deuxième fois qu'il se rendait en Irak dans le cadre de la lutte contre Daesh, Qatar Abu Dhabi. Il s'avance un peu, François Hollande, quand il parle de avant l'été, la bataille de Mossoul.
Monsieur Hollande, qui porte bien les habits de chef de guerre après avoir laissé la, après avoir renoncé à se présenter à la présidence, s'implique, oui, il tente à travers cette image dans la guerre contre le terrorisme de rehausser son bilan. Mais je pense, jusqu'à maintenant, pour l'affaire de Mossoul, les Américains ont avancé la date de la fin de l'année ou avant les débuts du mandat Trump, on n'est pas là. Oui, cette date, ça pourrait marcher, mais avec, je prends ça avec prudence, compte tenu que jusqu'à maintenant, les progrès des forces irakiennes se concentrent à l'est de la ville, tandis que l'ouest de la ville, et surtout la vieille ville, où le blindé et les autres engins ne peuvent pas arriver, sont encore entre les mains de cet État islamique de Daesh. Et pour cela,
et qu'il ménage pas ses efforts,
c'est une période dure.
Oui, la résistance, elle est très forte, hein, venue de Daesh, avec les attentats suicides, avec les snipers, et puis les civils, n'oublions pas quand même, Mossoul, une ville de plus d'un million d'habitants, Qatar Abu Dhabi.
Exactement, il y a un drame humain qui se trame, et en plus, jusqu'à maintenant, depuis 13 ans en Irak, depuis 2003, on tourne dans un cercle vicieux. On combat Zarqawi ou Al-Qaïda, puis on combat à Daesh. On libère une ville, mais on n'arrive pas à contenir ces dangers de Daesh. Donc, il y a un problème. Le problème, il y a une solidarité cachée, c'est-à-dire il y a un problème sinistre. Tant que l'État irakien reste un État d'une seule couleur, ça ne va pas marcher. Voilà. Et pour cela, il faut un effort. Et M. Hollande a parlé de cette reconstruction. Mais avant tout, en Irak, il faut une réconciliation nationale, une véritable réconciliation nationale, une véritable justice intermédiaire, transitoire. Sans ces éléments, ça ne va pas marcher. Et jusqu'à maintenant, c'est cet arrangement iranien et américain en Irak tente de maintenir la situation. Il y avait la cran ratée, c'était le Mossoul en 2014. On essaye de réparer cette naissance de ces califats autoproclamés. Le grand problème, ce n'est pas la fin de Daesh de ces territoires. C'est possible qu'en 2017, qu'on arrive à éradiquer Daesh de Mossoul comme de Raqqa en Syrie. Mais le grand problème, le danger de Daesh est toujours là. C'est un phénomène mondial. c'est un phénomène mondial et c'est un combat idéologique. Voilà. C'est un combat idéologique, un combat à l'intérieur de l'islam, un combat compliqué. Tant que les Occidentaux et la Russie ne changent pas leur méthode, la méthode sécuritaire à elle seule et la méthode militaire à elle seule ne sont pas capables d'en finir avec le terrorisme.
Oui, parce que quand François Hollande annonce aussi la fin de Daesh avant la fin de l'année, il s'avance aussi un petit peu.
Il parle de la victoire. Le mot victoire pour un diplomate, pour un homme politique, c'est un mot large. Il n'a pas annoncé la fin de Daesh en tant que tel. Il garde un peu de distance.
Jean-Luc Seron.
Mais je pense que c'est un engagement très... très peu fiable finalement, parce que en réalité Daesh commence à se venger de ses défaites sur le terrain par les attentats croissants, et je veux dire, je j'aime pas ça, mais c'est vrai que l'Europe, la Turquie, on va en parler tout à l'heure, est grandement menacée après par les attentats. Ouais. Et puis pendant que, et c'est ça qui est un peu aberrant, le tir est concentré sur Daesh, Al-Qaïda se renforce, s'est renforcé dans d'autres
dans
États.
Dans le nord-ouest de la Syrie, notamment,
dans le monde. Et il y a d'autres groupes terroristes en Syrie, ouais, qui sont financés par certains membres de la coalition anti-Daesh, comme le Qatar, l'Arabie Saoudite, qui ouvertement financent certains groupes. Donc nous ne sommes pas sortis de ce problème.
Oui, au moment où ils se trouvaient à Bagdad, hein, ensanglantés par des attentats, des voitures piégées, il y a eu des dizaines de morts. Hein. François Hollande, il justifiait la lutte contre l'État islamique, la lutte en Irak, justement, au nom de la lutte pour prévenir le terrorisme en France. Franchement, les djihadistes, est-ce qu'ils ont toujours besoin d'une base arrière en Syrie, en Irak, pour commettre des attentats en France,
non,
en Allemagne ou ailleurs?
Ce qui est grave, c'est ça. Ce qui est grave, on a vu Berlin, on a vu la Turquie, on a vu l'Irak même, où il y a quand même un échec énorme. Depuis 2003, on n'arrive pas quand même à maintenir même Bagdad stabilisé. Mais surtout, il y a quand même cette contamination idéologique. C'est un virus. C'est un virus. D'autre part, l'histoire de ces États, est-ce vraiment c'est le Qatar ou l'Arabie Saoudite qui finance? Il faut vérifier. Car vous savez, il y a des privés peut-être dans ces États. Mais j'informe, c'est depuis 2001, les États-Unis contrôlent directement les finances dans ces pays et le flux de l'argent de ces pays. Donc, je pense que les gens dans le monde arabe ont dit que ce sont les États-Unis qui ont fait le terrorisme, ou c'est Maliki en Irak et Bachar el-Assad en Syrie qui ont fabriqué Daesh. À mon avis, tout ça, il y a une partie de la vérité. Daesh ressemble à un holding terroriste international, mais je pense quand même qu'il y a une entité parfaitement autonome, c'est ça qui est grave. Avec des idées, toujours, avec financement, toujours, et avec un détournement de lois, blanchiment d'argent et coopération entre les mafias. Il y a les mafias du terrorisme et les autres mafias en même temps.
Alors, la France est le deuxième acteur quand même, là-bas, sur place, à combattre Daesh, avec plus de 1000 frappes depuis 2 ans. Alors, ce ne sont que 3% quand même des frappes. Le gros, ce sont les États-Unis, 14 rafales engagées, 500 soldats français au sol en Irak, pour du conseil, entre guillemets. François Hollande, chef de guerre, François Hollande qui va partir au mois de mai, Jean-Luc Seron, c'est ce qu'il a le mieux réussi depuis 2012 ?
Je crois que c'est ce qu'il a le mieux anticipé, oui, et le mieux réussi. Et je pense que c'est très intéressant de voir les déclarations récentes du général de Villiers, donc chef d'état-major armée française.
Au mois de décembre, qui demandait clairement à ce qu'on arrive à 2% du PIB consacré à la défense, mais bien avant 2025, comme l'OTAN le demande, comme les candidats à la présidentielle 2017 le demandent. Faut faire vite,
Oui, alors, savoir si les candidats le demandent ou le proposent, ça c'est un peu moins clair. Je pense que vraiment, pour que l'armée française, qui est une armée républicaine, pour que le chef d'état-major se permette, la grande muette, c'est quand même pas une image, c'est une réalité, de prendre comme ça, à partie, le monde politique et l'opinion publique, c'est qu'il craint quand même que certains, parce qu'il y a quand même un courant en France, des deux côtés, qui souhaiteraient s'éloigner quand même des terrains de guerre, que ce soit à gauche ou extrême gauche ou la droite, et ça je pense que c'est une erreur considérable.
Juste un mot, c'est aux juristes que je m'adresse, que vous êtes, Jean-Luc Seron, est-ce que toutes les armes contre les terroristes sont-elles bonnes ? Révélation polémique, c'est le journaliste Vincent Nouzi, hein, souvent venu d'ailleurs dans Good Morning Weekend sur BFM Business, qu'il révèle cette semaine dans son nouveau livre « Erreur fatale hein, ». Il y avait déjà consacré un ouvrage, « Les tueurs de la République ». François Hollande aurait fait assassiner une quarantaine de chefs terroristes, ou terroristes, hein, pas forcément chefs terroristes, en Syrie, en Irak, au Mali, par nos forces spéciales. Meurtre ciblé, frappe ciblée. Qu'est-ce que vous en dites ?
Alors d'abord que atteindre ce niveau de naïveté est assez déprimant. Nous sommes en guerre.
Mmh. Hein? Ça se fait depuis toujours.
Non mais nous sommes en guerre. Enfin, je veux dire, placer sur le domaine du droit l'élimination, nous devons quand même, on s'est bien aperçu que dans des structures aussi complexes que les groupes terroristes, il suffit par moment d'éliminer deux ou trois dirigeants pour déstabiliser pendant un temps certain. Les Américains le font en Irak où ils éliminent les principaux chefs. Enfin, quand même, si nous prenons le cas des attentats en France,
ils ont été... Obama ne s'en est absolument pas privé. C'est ça qui est stupéfiant. Obama et Hollande, qui ont une certaine philosophie politique, justement, ils ont ordonné des meurtres, hein, systématiquement.
Non, des éliminations.
Des éliminations.
Enfin, je veux dire, la France se défend. La France se défend.
Bien sûr.
Enfin, je veux dire, il faut quand même arrêter. Et nous ne sommes pas dans des opposants politiques. Nous sommes dans les gens qui ont comme seul objectif de nous détruire.
Bien sûr, mais je ne dis pas que c'est mal. Hein,
parce que dans le prolongement de ça, ce sera un vrai débat politique dans la prochaine campagne. C'est que l'Europe va-t-elle faire des dizaines de milliers de
d'agistes
qui vont revenir.
Bien sûr.
C'est un vrai problème.
Bon, on avance, hein, 7 jours dans le monde, oui, parce qu'après Mossoul, bon, si elle est reprise avant l'été ou plus tard, on verra évidemment, il restera Raqqa en Syrie, la Syrie toujours dans le chaos, malgré une trêve plus que fragile à Alep, bientôt 6 ans de guerre, hein. Et depuis 2011, on ne peut pas dire que l'ONU a beaucoup brillé. On a entendu des déclarations d'intention, de l'émotion également, des constats sur l'horreur de la situation, des passes d'armes, États-Unis, Russie, en vain. Ce sont les vétos russes qui ont bloqué le système systématiquement, Qatar, Abu Dhabi.
Écoutez, le problème des Nations Unies est loin. Depuis que le général de Gaulle, une fois, il l'a surnommé le machin. Et depuis que Jacques Chirac a dit directement, à un moment donné, il a fait un lapsus très révélateur. Ce n'est pas le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est le Conseil de sécurité des États-Unis. À l'époque, ce sont les États-Unis qui bloquaient avec les veto. Cette fois, c'est la Russie et la Chine qui ont bloqué 6 fois. Et ça signifie que, sans une petite entente entre les 5 crans, cette ONU est bloquée. Ouais. Donc, et là, soit réformée.
Pas, c'est l'intérêt général.
Intérêt particulier et intérêt suprême d'un État donné. Mais le gros problème, c'est ça. Pour prévenir la paix et pour que ce soit une organisation efficace, soit il faut réformer l'ONU. Et c'est pas acquis, car en fait, jusqu'à maintenant, on n'arrive pas.
Mais dans quelle direction réformer l'ONU?
Réformer les droits de veto. Ouais. C'est la même chose. Ouais. Donc, c'est l'impasse, plus ou moins.
C'est l'impasse, parce que, bon, là, on parle de la Syrie, mais il n'y a pas que la Syrie. Il y a une quarantaine de conflits en ce moment dans le monde. Et c'est vrai qu'ils se soucient du Yémen, qu'ils se soucient du Sud-Soudan. Oui. Il y a un nouveau secrétaire général qui est arrivé,
oui,
Antonio Guterres,
qui
succède à Ban Ki-moon. Qu'est-ce qu'il va faire de plus, lui?
Alors, d'abord, c'est un homme qui a déjà fait ses preuves, je dirais, dans le Haut Comité aux réfugiés. Qui a très profondément modifié et qui a osé totalement modifier l'organisation. Il n'a pas dit ça avec des amis d'ailleurs au sein de l'ONU. Et c'est intéressant de voir que tous les États, y compris les 5 du Conseil de sécurité, ont tout à fait soutenu. Parce qu'il y a une espèce d'antagonisme dans ces États du Conseil de sécurité. À la fois, ils souhaiteraient une ONU pas trop forte et à la fois, ils ont besoin aussi du volet humanitaire de l'ONU. Parce qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas l'ONU pour intervenir sur tous les terrains, pour s'occuper des réfugiés, il y aurait un vivier pour Daesh qui serait décuplé. Donc l'ONU, certes, il a l'air comme ça de ne pas arriver à obtenir la paix, mais grâce à l'ONU, quand même, il y a des millions de gens qui arrivent à survivre et qui ne basculent pas dans le terrorisme.
Quand je parle des 40 conflits actuellement en cours, il y a 70 millions de personnes déplacées aussi dans le monde. Il n'y a pas que la guerre en Syrie, il n'y a pas que la guerre en Irak. Bon, on verra si l'Assemblée Générale peut prendre ou pas plus de pouvoir. Oui, l'ONU hein, qui soutient le fameux cessez-le-feu conclu en Syrie sous l'égide de la Russie, de la Turquie et de l'Iran. Trêve branlante hein, à la fois sur le terrain à Alep avec la reprise sporadique de combats, on l'a vu cette semaine, et puis dans les coulisses hein, en vue des négociations pour la conférence d'Astana au Kazakhstan à la fin du mois. Qatar, Abu Dhabi, on va y parler de quoi à Astana? Pas du sort de Bachar al-Assad a priori.
Non, car enfin, M. Poutine, qui a fait tout, avec, quand même, il a utilisé son outil militaire d'une façon massive, mais avec peu d'hommes, 5000 hommes, mais avec beaucoup de missiles, beaucoup de frappes aériennes, il a fait tout pour gagner à Alep, au dépens de vie humaine. C'est un drame humain énorme, mais avant l'arrivée de Trump. Pourquoi faire? Pour qu'il puisse lui-même prendre cette carte syrienne entre les mains. Donc, avant d'arriver pour négocier ça avec la nouvelle administration américaine, les passages intermédiaires, ce sont les négociations prévues à Astana. C'est une sorte d'alternative à Genève, sans dire le mot. C'est-à-dire, lui, il constate que le processus de Genève, initié depuis 2012, ça n'a pas fonctionné. Il tente cette fois, avec la Turquie et l'Iran, une nouvelle tentative. Je pense qu'elle ne serait pas infructueuse. Je pense que les difficultés sont énormes. Mais quand même, si on arrive à Astana d'instaurer une certaine confiance entre les partis, ça pourrait être utile pour Genève après. Mais c'est vraiment, jusqu'à maintenant, c'est précaire.
Ça va ressembler à quoi, Jean-Luc Sauron, ce nouvel ordre dans la région?
Alors, d'abord,
sous l'égide de la Russie, de l'Iran et de la Turquie?
Je trouve que, à mon sens, ces commentateurs vont très vite en parlant de nouvel ordre. Parce que ce triangle n'est absolument pas solide. C'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur de ces triangles des oppositions très fortes entre les Turcs et les Russes. Les Turcs soutiennent la Géorgie, l'Azerbaïdjan, les Russes l'Arménie, les Turcs sont très attachés aux Tatars de Crimée. Donc sur l'Ukraine, ils ont une position différente. Il y a des incidents actuellement parce que les troupes de Bachar al-Assad ne semblent pas respecter la trêve. Et il y a eu des morts turcs l'autre jour, et donc il y a une situation très tendue. Et l'Iran, qui est très derrière Bachar al-Assad, a des tensions avec la Turquie, etc. Donc on a un triangle qui est quand même très fragile, avec une Russie qui est pressée d'en terminer, parce que certes, ils ont gagné Alep. Moi, je rappelle que la Russie, c'est un PIB mondial qui est égal à celui de l'Italie, il faut quand même de ça, et que s'ils sont surarmés, c'est 10% du budget des États-Unis. Et qu'ils vont avoir, si jamais il y a un front asiatique bientôt, il faudra aussi qu'ils soient présents là-bas. Donc certes, c'est une puissance très anxiogène et qui peut être dangereuse, mais elle n'est pas si solide que ça. C'est un peu, pour reprendre la version biblique, c'est un peu un colosse au pied d'argile. La fragilité russe n'a pas disparu.
Ouais, on en reparlera justement des Russes d'ici 7-8 minutes, avec ces passes d'armes, avec les États-Unis, ces soupçons de piratage, notamment dans la campagne électorale qui s'est achevée donc au mois de novembre. Oui, encore un mot, quand même, enfin plus qu'un mot, puisqu'on vient d'évoquer la Turquie. Et c'est vrai que 2017 avait tout juste démarré, donc le week-end dernier, sur le continent européen, qu'un tueur abattait une trentaine de personnes. Bon, qui a eu juste la bonne idée de faire la fête le 1er janvier, tout simplement, dans une boîte de nuit, au bord du Bosphore, le Réna.
Il n'y avait rien à faire. L'homme est entré dans le club, il a tiré sur tout le monde, et puis il est reparti.
Oui, attentat revendiqué par Daesh, et puis cette semaine encore, c'est la ville d'Izmir qui était la cible d'une voiture piégée. Alors, action cette fois, eh bien, attribuée plutôt au Kurdes. Jean-Luc, Daesh, le PKK, des attentats à répétition en 2016, à Istanbul, à Ankara, à Diyarbakir, aussi à Gaziantep, oui, alors attentats contre des civils, contre les forces de l'ordre, assassinat de l'ambassadeur de Russie aussi à Ankara. Est-ce que le président Erdogan contrôle le pays?
Je pense qu'il ne contrôle pas le pays. C'est-à-dire qu'il faut quand même savoir que la Turquie, c'est à mon avis le maillon le plus faible, je serais tenté de dire, de l'Europe. Car en réalité, la Turquie, si la Turquie part un peu en vrille, il ne faut pas s'imaginer que l'Europe va surnager ou s'en laver les mains.
Bien sûr.
Parce qu'il a ça. Il faut bien comprendre que la Turquie, 19 attentats en 2016. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Nous, comme nous sommes secoués avec deux attentats très graves, mais deux attentats.
Et à chaque fois, ce sont des attentats qui font quand même de très nombreuses victimes.
Très nombreuses victimes.
Une vingtaine par là, etc.
D'ailleurs, pour le nouvel an, moi, je pense qu'on dit, le Daesh avait-il besoin d'un terrain? Évidemment, ce garçon était très, très bien entraîné. Donc aussi, Daesh était à la base de graphique d'entraînement. Mais on a, c'est à mon avis très, très grave, c'est que ce pays est totalement désarmé, entre guillemets, parce que, quand même, le président Erdogan a littéralement, je crois que sur le service secret de l'armée, il a licencié 80% des effectifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'a plus l'appareil répressif performance, si je puis employer ces termes, pour mener la lutte. Et donc, on a un pays qui est très instable.
Ils ont dû embaucher à toute vitesse, peut-être, des gens
qui sont politiquement peut-être fiables, mais pas compétent. Enfin, dernière chose là-dessus, sur les attentats, ils avaient été précédés, ça n'a rien à voir, hein, mais dans la presse islamique, islamisante, proche de l'AKP, on critiquait ceux qui allaient faire des fêtes d'année réveillon avec une fête des chrétiens apostates. Donc il y a quand même une ambiance, il y a un bouillon qui est quand même, enfin si je puis dire, il y a un bouillon qui est quand même assez nauséabond et qui fait craindre que l'année 2017 soit pas une très bonne année pour la Turquie.
Le pays s'enfonce dans le chaos, Qatar Abu Dhabi.
C'est sûr que l'année 2016 a été terrible. Le coup d'État avec raté, entre guillemets, avec ses répercussions, cette grande purge qui a vraiment éliminé beaucoup de gens de cet État turc, et maintenant le problème avec les Kurdes est entier.
Est-ce que la purge était justifiée?
La purge n'a pas été justifiée, mais c'est un moyen de M. Erdogan pour reprendre les choses en main. Reste une chose, est-ce que la Turquie ose abandonner l'OTAN pour se rallier à la Russie? C'est ça la grande question. Monsieur Erdogan joue sur tous les tableaux. Et pour cela, les choix sont durs pour la Turquie. L'année 2017 doit être aussi un tournant difficile pour ce pays.
Oui, mais d'autant plus que peut-être le pouvoir va se durcir. Un référendum en avril, référendum sur un changement de constitution pour donner plus de pouvoir au président. Il va en profiter encore, Jean-Luc Sauron?
Je pense que les pouvoirs sont de plus en plus concentrés et fragilisés encore la structure politique turque. Parce qu'en réalité, avec cette réforme, qui est un vieux projet, en réalité, on s'aperçoit que c'est quasiment, Erdogan est quasiment à lui seul l'appareil d'État. Dans un pays qui est en guerre, qui est fragile, sur le rapprochement avec la Russie, c'est un rapprochement qui est tendu parce qu'il y a quand même des divergences. Et puis, il est impossible de changer d'allié comme ça. Enfin, tout le circuit économique, c'est pas les accords sur l'énergie avec la Russie. Tout le circuit économique se fait avec l'Union européenne et les États-Unis. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est impensable. Enfin, il joue un double jeu, il essaye un peu, mais il n'a pas la marge pour le faire.
En attendant la Turquie dans l'Union européenne, Jean-Luc, c'est définitivement oublié. On a vu dans le programme présidentiel de Manuel Valls cette semaine, là, il ferme la porte complètement, l'ancien Premier ministre. C'est un exemple.
Non, mais je crois que de toute façon, si ce n'est pas l'Autriche qui bloque, puisque l'Autriche a, comme la France, l'obligation de voter par un référendum lors du prochain élargissement. Parce que je rappelle qu'en France, le prochain élargissement, que ce soit le Monténégro, la Turquie,
Chirac,
la Serbie...
Chirac, il avait souhaité, ça, je crois.
Alors, il est sûr qu'il l'avait fait. Nicolas Sarkozy l'avait atténué, puis il avait enlevé l'atténuation. Donc, la dernière adhésion qui a été faite sans référendum, c'est la Croatie. Donc, la prochaine, ce sera avec référendum. Je ne vois pas en France une majorité pour l'adhésion de la Turquie. Donc, ça, c'est impossible.
Qatar, c'est pareil.
Oui, je pense qu'il faut aller vers un système de partenariat privilégié avec la Turquie. C'est la solution. Il ne faut pas perdre la Turquie comme aile sud de l'Europe, comme entrée pour l'Europe.
Mais les deux font parallèle, d'ailleurs.
Ouais, ouais.
Entre la Grande-Bretagne et la Turquie, on a un peu deux grandes nations alliées aux marges de l'Europe.
Oui, exactement. Il faudrait faire repenser le projet européen et de donner des places de partenariat à la Grande-Bretagne d'un côté et à la Turquie de l'autre. Oui.
Bon, allez, à suivre 7 jours dans le monde. On va se retrouver dans un instant sur BFM Business, à la radio et à la télé, toujours avec Jean-Luc Sauron, avec Qatar, Abu Dhabi. Barack Obama va faire ses adieux et puis Donald Trump, lui, se prépare. Tiens, sa cible cette semaine, vous le savez, c'était les constructeurs automobiles mondiaux. À tout de suite.
BFM Business, 7 jours dans le monde. BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Oui, 7 jours dans le monde. On revient donc avec Jean-Luc Sauron. Faites l'Europe, pas la guerre. Il est professeur de droit européen à Paris-Dauphine, Qatar, Abu Dhabi, consultant au Cahier de l'Orient. Et on salue Antoine Sfer, bien entendu. Il est consultant en géopolitique, enseignant à l'université Paris-Saclay. Oui, 2017, on continue d'en parler. L'année des changements, bien sûr, de gros changements avec aux États-Unis. Vous le savez, c'est Barack Obama qui prépare sa sortie qui aura lieu définitivement le vendredi 20 janvier, au moment de la passation de pouvoir avec Donald Trump. Fête à la Maison-Blanche ce vendredi. Chicago, ce sera mardi dans son fief politique avec une allocution télévisée. Tiens, l'un et l'autre, Qatar, Jean-Luc, si vous aviez à écrire ce discours pour le président Obama, parce que Barack Obama veut revenir sur ses 8 années de présidence, qu'est-ce que vous diriez dans la bouche du président ?
Je ne ferai pas un discours de contentement. C'est-à-dire que si c'est vrai que la grande œuvre de ce huitennat, je ne sais pas comment on pourrait, huit ans, c'est l'Obamacare, c'est-à-dire l'accès à la santé de beaucoup d'Américains pauvres ou démunis, je veux dire qu'il y a deux grands échecs. Il s'est quand même totalement, enfin les États-Unis sont totalement trompés sur la possibilité de pacifier entre guillemets les relations avec la Russie. Et il compte de stabiliser le Moyen-Orient. Enfin, je veux dire, ça a été une la seule grande victoire, ça a été l'élimination de
Ben Laden.
Bon. Et l'autre élément que je trouve, et je dirais, c'est regretter. Enfin, j'étais Obama, de ne pas avoir su traiter suffisamment la tension raciale aux États-Unis. Enfin, je veux dire, c'est quand même un problème qui m'a fait que ça croître avec la minorité demain, les minorités blanches aux États-Unis.
Inadmissible. Vous avez raison.
C'est
Qatar Abu Dhabi.
C'est l'autocritique, je pense. Il faut reconnaître l'échec interne. C'est vrai, Obamacare représente un tournant, mais cette division interaméricaine qui a été très flagrante pendant les élections, ces problèmes raciaux, les lendemains de cette diversité américaine ne sont pas rassurants. D'autre part, l'autre autocritique, M. Obama qui a pris le Nobel de la paix, il n'a pas fait grand-chose pour la paix.
Dès la première année.
Il y a un échec politique et moral, pas seulement au Moyen-Orient, il y a peut-être le Cuba, une petite ouverture.
L'Iran,
l'assassinat de Ben Laden.
C'est bien l'Iran.
L'Iran aussi, mais l'Iran, ça restait quand même un amour d'un unilatéral. Il n'y avait pas quand même une chaleureuse retrouvaille des deux côtés, car enfin, en aménageant l'Iran, en disposant Netanyahu, on n'est pas réglé les problèmes syriens et les autres choses.
À disposer Netanyahu jusque dans les dernières secondes de 2016, puisque
exactement.
Pour la première fois, les États-Unis.
Voilà,
ouais, vous
exactement.
Dites bravo, oui, bah, voilà. Comme quoi tout arrive finalement.
Ah,
hein.
Non, moi j'ai pas dit bravo.
Ah, j'ai cru que vous disiez bravo.
Non, j'ai pas dit bravo. Je trouve.
On va rappeler au Conseil de sécurité les États-Unis qui, pour la première fois, n'ont pas déployé, dégainé leur veto pour condamner, tenser la colonisation donc par Israël des territoires occupés, des territoires palestiniens.
Alors, j'ai dit bravo.
Ah, j'ai cru que vous disiez bravo,
ce vote
pardon.
Américain. Certainement pas.
Au non,
notamment au fait, notamment au, sur le fait qu'en
au
réalité,
non-veto américain peut-être.
Au non-veto américain. Donc, en partant, il met le feu à la région.
Voilà.
Et en laissant une administration dont il peut craindre qu'elle ait une politique au plus dure. Une situation très conflictuelle.
Bon, alors, on revient sur la scène américaine. Hein. Si les stars, elles restent nombreuses autour de Barack Obama pour lui dire au revoir, les Beyoncé, les Jay-Z, quelles seront les vedettes qui viendront chanter pour Donald Trump le vendredi 20 janvier à la Maison-Blanche? Apparemment, beaucoup d'annulations. Elton John, Justin Timberlake, Bruno Mars. Bon, une femme présidente...
Si Mathieu est là, non, peut-être...
Non, c'était Sarkozy en 2007. Hein.
On peut l'envoyer, peut-être.
Bon, en tout cas, oui, une femme présidente Obama, quand même... Dans les tensions avec la Russie, avec cette question toujours sans réponse, réponse claire, ferme, hein, Moscou a-t-elle intrigué? A-t-elle interféré? A-t-elle manipulé le vote présidentiel en faveur de Donald Trump? Là, au mois de novembre, les patrons des différents services de renseignement maintiennent leurs accusations contre la Russie. Donald Trump, lui, il émettait cette semaine des doutes sur ses allégations d'ingérence de Moscou, en tout cas dans le camp républicain. On est remonté contre la Russie. Hein. C'est le cas du sénateur républicain de Caroline du Sud, Lindsey Graham.
Nous souhaitons que 2017 soit une année offensive. Nous sommes sûrs que le président Poutine a piraté les élections américaines, qu'il a essayé d'ébranler la démocratie dans le monde et que par conséquent, le temps est venu pour de nouvelles sanctions contre lui, mais aussi contre les secteurs énergétiques et bancaires russes.
Et McCain, que vous avez vu si vous nous suivez à la télé pour 7 jours dans le monde, qui était juste derrière, lui qualifie d'acte de guerre les ingérences russes. Alors des accusations qui ont conduit Barack Obama à expulser donc en début de semaine une trentaine de diplomates russes. Or certains y ont vu donc un retour de guerre froide. On aime bien se rappeler de cette période, Jean-Luc Sauron, non ?
On aime bien aux États-Unis se rappeler une période où les États-Unis étaient extrêmement fortes et avaient la capacité de dicter leur loi au monde. C'est peut-être un peu du souvenir à l'heure actuelle, on va voir dans les mois, sur le fait que cette semaine, les deux grandes agences américaines de renseignement ont indiqué qu'elles avaient les preuves des trafics russes et de l'origine russe des contacts. C'est quand même crédibilisé par le fait que tant les Allemands que les Français Par exemple, le ministre de la Défense, M. Le Drian, a confirmé qu'il y avait déjà un montage, une direction de cybersécurité.
Pour l'élection française ?
Dans la perspective de l'élection française,
pour qu'il n'y ait pas de difficulté. Et il y a le chef du renseignement allemand dans la perspective de l'élection
de septembre
2017 en Allemagne.
Il y a une véritable, il y a une véritable angoisse là-dessus. Et c'est vrai que les Américains, là-dessus, ont eu une position à la fois trop lente et pas assez efficace, parce que cette grande puissance n'ait pas été capable d'empêcher ce phénomène est quelque chose d'assez angoissant.
Ouais, enfin, n'oublions pas Qatar Abu Dhabi qu'en matière de piratage, d'écoute, hein, de cyberguerre, etc., etc. Les Américains ne sont pas des débutants non plus. Madame Merkel doit s'en souvenir. Hein, elle qui, dont le téléphone avait été écouté.
Les Américains, chez Merkel, chez Hollande,
oui, bien sûr.
Étaient actifs, c'est-à-dire tout le monde espionne tout le monde. Mais ce qui est grave, que les États-Unis, qui sont quand même ceux qui ont fait cette mondialisation, cette révolution technologique, cette révolution numérique, sur le plan économique, plus ou moins, ils sont dépassés par la Chine. Et maintenant, si dans la guerre électronique, on prouve que la Russie a pu pirater les États-Unis, c'est un grand échec américain.
Et les Chinois ont une croissance économique, mais ils ont une pipe par tête qui est inférieure à l'Union européenne.
Non, j'entends, mais les
activités... Jean-Luc,
les activités d'espionnage informatique par les Chinois sont montrées du doigt. J'ai l'impression, en première
génération
par la NSA. Elle vient plutôt de là, peut-être.
Moi, j'ai été bercé, comme toute ma génération, par les James Bond, où les mauvais, c'était soit les Soviétiques, soit les Chinois. Ça n'a pas changé. Mais sur les écoutes, c'est vrai que le scandale américain est réel. S'imaginer que les Français ou les Allemands vraiment sont totalement neutres là-dessus et sont les enfants de cœur, je ne crois pas.
La Chine versus Donald Trump, hein, la guerre ne fait-elle que commencer? Oui, même pas arrivé à la Maison Blanche, hein, le futur président américain, depuis le 9 novembre, depuis son élection, hein, il n'a pas ménagé ses efforts pour accuser Pékin de manipuler sa monnaie, de réarmer dans la mer de Chine méridionale, justement, la menaçant de guerre commerciale. Prenons au téléphone la présidente du paria taïwanais. Tiens, on ne sait pas si un officiel taïwanais sera là le 20 janvier, mais enfin, ça serait la ligne blanche à ne pas dépasser pour Pékin, Qatar Abu Dhabi.
Oui, je pense que c'est quelque chose de très critique. Et maintenant, ce dossier, c'est le dossier prioritaire de l'administration Trump. Moi, j'ai l'impression que cette mondialisation, elle s'effondre devant nos yeux. Les États-Unis qui ont dirigé cette mondialisation avec l'isolationnisme de M. Trump sont en train de quitter ces trains après la Grande-Bretagne avec son vote pour le Brexit. Et pour cela, cette Chine, communiste toujours, elle défend elle-même la mondialisation et le libéralisme ouvert. Hein, c'est quelque chose quand même de très bizarre, mais ça signifie quand même que les États-Unis ont du mal à accepter le nouveau fait du monde et le transfert de la puissance. Donc c'est ça le problème.
Une contradiction quand même pour les Américains, puisque le même Trump offre de supprimer, de ne pas signer le traité transpacifique, qui est un moyen de renforcer les liens économiques avec les zones des pays non communistes de la région.
Tout juste, oui. Redonner un peu de pouvoir aux Chinois, bien entendu. Dis donc, 2017, alors, changement ou pas, on verra du côté de la Chine, hein, Xi Jinping. Normalement, c'est son dernier mandat, mais il aimerait bien aller au-delà jusqu'en 2022. Xi Jinping, Erdogan, Poutine, Trump, avec en face une Union européenne inexistant de plus en plus, Jean-Luc Sauron.
Moi, j'ajouterais Orban, j'ajouterais Kaczynski en
les
Pologne.
Philippins.
Voilà,
les Philippins.
Moi, je vais m'arrêter à l'Europe, je trouve que le bonheur est déjà bien complet. C'est vraiment le grand débat, c'est assez intéressant de voir dans les opinions publiques une demande finalement de ce qu'on appelle une démocratie. On reste dans un cadre démocratique avec un gouvernement autoritaire. Et ça, c'est vrai qu'il y a une angoisse par rapport entre des pays très stables, si je puis dire, comme la Russie, comme la Chine, etc. Mais, comme on l'a dit tout à l'heure, la Russie n'est pas aussi stable que cela, parce que la remontée du cours du pétrole offre un tout petit peu d'oxygène à la Russie, mais il y a une vraie crise économique. Et je vous dis, c'est un PIB de 2%, c'est le PIB italien, la Russie. Hein. Donc c'est quand même un vrai problème.
Est-ce que Poutine va se durcir? Est-ce qu'il va aller au-delà de la zone syrienne, puisqu'on a beaucoup parlé de la Russie en Syrie en 2016? Est-ce qu'il va aller challenger, tester un petit peu l'OTAN? Est-ce qu'il va regarder du côté des Pays-Baltes, de la Pologne? Un petit peu, voilà, pour regarder un peu ce qui se passe.
Moi, je pense qu'il y a d'abord l'Ukraine. et la consolidation
avec la Crimée qui avait été annexée il y a 3 ans bientôt.
La crise ukrainienne. Il y a bien évidemment les pays baltes. Il faut savoir que c'est beaucoup des auditeurs ou de nos auditeurs et spectateurs ne se rappellent peut-être pas, mais c'est parmi les dernières républiques ex-soviétiques qui se sont rendues indépendantes, je dirais, de force, sans dialogue politique. Et s'il n'y avait pas eu Gorbatchev, je pense que ça a pu s'amener dans le sang. Et les Pays-Baltes sont des pays où il y a des communautés russophones très importantes.
Bien sûr, en Lettonie,
on ne peut même pas qualifier de minorité. Dans ces pays, une part importante de la population.
De 2017, puisqu'on se projette beaucoup, évidemment, sur l'année qui vient de démarrer, est-ce que ce sera l'année du protectionnisme, justement? Puisque Donald Trump, il menace la Chine d'une guerre commerciale, on en parlait avec vous, Qatar Abu Dhabi, il menace de remettre en cause tous les traités, de libre-échange, hein. Et on le voit, donc, il fait pression sur les constructeurs automobiles. Ne faites pas fabriquer ou ne faites plus fabriquer au Mexique. Revenez chez nous, restez chez nous. Sinon, vous serez taxés. Alors, GM, Ford ont déjà cédé. Toyota est dans la ligne de mire, à tel point que Carlos Ghosn a demandé à Trump de clarifier les règles. Ça donne déjà un aperçu de l'ère Trump, du Made in America.
Ça donne de l'aperçu de cette montée aussi du nationalisme, l'Amérique tout d'abord. D'autre part, c'est très inquiétant, ça nous rappelle cette phase de 1920-1930. L'isolationnisme américain et ses effets néfastes sur la scène mondiale. C'est ça ce qui est le plus grave. Sinon, à travers le monde, cette montée du nationalisme devient un phénomène irrésistible. Et pour cela, s'il n'y a pas une prise de compte en Europe de ces nouveaux qui changent, de nouveaux mondes qui changent, l'Europe risque de payer encore un prix.
Présidence Made in America, ça y est, il a montré la couleur, clairement, on n'a pas besoin d'attendre le 20 janvier.
Non, mais Barack Obama, j'ai déjà dit sur ce plateau, c'est le président qui, depuis le président ouvert, celui de la crise, a pris le plus de mesures protectionniste. Donc il y a un discours ouvert. Obama le faisait quand même, je dirais pas en douce, mais il le faisait quand même déjà depuis assez longtemps. Non, le problème en Europe et en France, c'est que c'est une question qui va être au cœur du débat présidentiel. Faut-il ou non établir nos frontières? C'est pas que Schengen, hein, c'est aussi l'économique. Et que là, quand on a la réaction...
Au cœur du discours de Valls sur l'Europe, justement, de freiner l'élargissement, au cœur du discours de Montebourg, également, on parle de nationalisation... On parle du Made in France aussi, ce sont des exemples.
Mais la réaction des syndicats pour le STX à Saint-Nazaire en disant « Mais c'est les Italiens qui récupèrent ça.
On a vendu
les
ça aux Italiens. »
Donc il y a bien sûr des problèmes, mais je crois qu'il y a...
C'était coréen, on va le rappeler, quand même, jusqu'à cette semaine.
C'était coréen, et là, c'est... Alors, il faut être honnête,
toujours avec une
c'est
part de l'État.
Sino-italien. C'est sino-italien, état-français,
le STX. Voilà, état-français.
Hein. Mais non, c'est un vrai débat qui va s'étendre, oui.
Avec la politique du tweet qui continue contre les constructeurs automobiles, contre les constructeurs aéronautiques. On avait déjà vu comment Boeing...
Le problème de M. Trump, qui va prendre ses fonctions, lui, il ne veut pas se comporter comme le président de cette seule grande puissance mondiale. Il se comporte comme Zaïm, comme le chef. Il veut imiter Poutine, Erdogan, compagnie. Et ça, c'est grave, je pense. C'est grave pour le proche avenir des États-Unis.
Il a un congrès quand même, il a un congrès républicain, et peut-être que le gros des soucis qu'il va rencontrer très vite, c'est ces parlementaires républicains qui n'ont pas envie d'aller dans le mur.
S'il fait n'importe quoi, on peut envisager une procédure de destitution ou pas?
Oh, c'est possible, les États-Unis.
Écoutez, même
c'est...
cette histoire de la Russie, à mon avis, va être pour lui un problème, un handicap.
C'est pas fini, le scandale
sur les
élections, c'est pas fini.
C'est pas fini.
7 jours dans le monde, qui va reprendre dans un instant sur BFM Business, à la télé, à la radio, avec Jean-Luc Sauron, avec Qatar Abu Dhabi. Tiens, le Brexit 2017, année de l'activation du Brexit. Est-ce que Theresa May, le Premier ministre britannique, est-ce qu'elle assure vraiment? À tout de suite.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Et pendant encore quelques minutes, 7 jours dans le monde sur BFM Business, à la télé, à la radio. Oui, 2017, l'un des temps forts, ce sera évidemment l'activation. Alors normalement, ce printemps, on parle du mois de mars, par Londres, du fameux article 50 du traité de Lisbonne, qui permettrait évidemment une séparation donc de l'Union européenne, la sortie de l'Union européenne. Normalement, vous allez nous dire quand exactement, Jean-Luc Sauron, parce que il y a eu un couac cette semaine, avec la démission fracassante de l'ambassadeur du Royaume-Uni à Bruxelles, à l'Union européenne, bien sûr. Que dit Ivan Rogers dans un mail? Il critique clairement son Premier ministre, Madame May, le gouvernement, et son absence de stratégie. Londres n'a pas de négociateur expérimenté pour mener des négociations multilatérales. Le gouvernement ne sait toujours pas, on ne sait toujours pas ce que veut le gouvernement britannique. Sacré coup de tonnerre quand même.
Ben, ce qui est intéressant, c'est que nous étions sur d'autres plateaux rencontrés sur le rapport soi-disant non commandé.
C'était le décodeur de l'écho, fin novembre, début décembre. Un rapport de Deloitte qui montrait qu'il y avait une sorte d'impréparation.
Ah, mais d'impréparation et d'incapacité actuelle de l'administration
britannique. Surtout qu'on manquait, que le gouvernement manquait plusieurs dizaines de milliers de fonctionnaires pour gérer donc la sortie de l'Union européenne.
Et ce qui est invraisemblable, c'est que là, l'ambassadeur, le représentant permanent à Bruxelles, qui était certainement, tout le monde le reconnaît actuellement en Grande-Bretagne, je ne parle pas de eux autres, comme étant l'expert.
Celui qui allait gérer le divorce.
Il a craqué sur, en réalité, l'incohérence. Il dit, moi, je suis incapable de mener une négociation sans savoir où on va. Et comme le gouvernement est incapable de me dire où on va, eh bien, je démissionne. Et c'est quand même extrêmement grave qu'une classe politique d'une démocratie aussi ancienne que la Grande-Bretagne emmène dans le tourbillon son pays, l'ensemble de l'Europe, sur un dossier qui n'est absolument pas expertisé, ça fait quand même extrêmement peur.
On est début janvier 2017, qu'est-ce qui s'est passé concrètement depuis le 23 juin 2016, donc il y a 9 mois à peu près, pas tout à fait 9 mois, depuis le référendum qui a validé le Brexit. Alors, il y a eu un changement de Premier ministre, oui, mais elle reste, concrètement.
Il y a déjà un mauvais signe. Trois responsables concurrents sur le dossier. Boris Johnson, celui qui avait lancé la machine. David Davis, celui qui chargeait le Brexit. Et Liam Fox, celui chargé des relations internationales, du commerce international. Donc là, on sent déjà, et on sent bien que Theresa May, en réalité, n'a peut-être pas elle-même de position. Parce que
ça veut dire qu'elle ne sait pas où elle va ?
Ben non, parce que ce qui est intéressant de voir, c'est bien sûr ce qu'a dit Ivan Rogers. On verra ce que va faire Tim Broul, le successeur qui vient d'être nommé, qui est aussi un ambassadeur britannique, ou bien sûr un ambassadeur de qualité, pas un problème. Mais intéressant, c'est le départ à la retraite de Jonathan Fowle. Alors peut-être que vous, ça ne vous dit pas grand-chose. En fait, Jonathan Fowle, c'était vraiment le Britannique qui était à Bruxelles depuis 30 ans, qui était vraiment quelqu'un qui était au cœur des dossiers marché intérieur, et dont la compétence est vraiment incontestable. Qu'est-ce que dit Jonathan Fowle ? La position actuelle du gouvernement britannique de penser qu'il est possible de garder, d'acheter l'accès au marché intérieur sans laisser circuler les travailleurs est une impossibilité matérielle. Il vient de le dire cette semaine, lors de son pot de départ ou lettre. Donc ça veut dire que tous les experts britanniques qui auraient pu conseiller le gouvernement britannique disent publiquement, c'est aussi des gens responsables, s'ils prennent le risque politique de mettre leur État en difficulté, c'est qu'ils pensent véritablement que nous allons dans le mur, parce qu'il n'y a aucune possibilité de débat.
Un mot, Kater Aboudiaba.
Oui, pour cela, pour moi, l'enseignement a tiré de tous ces fracas. C'est un signal d'alarme pour les autres classes politiques dans les pays européens, de ne pas faire des dossiers qui ne sont pas préparés et de ne pas hausser ces tons nationalistes sans réfléchir au lendemain. Je pense que ça a été un coup dur pour le Royaume-Uni comme pour l'Europe, et même à l'intérieur du Royaume-Uni, il y a le problème de l'Écosse qui va se poser.
Oui, mais alors, quand on vous écoute, Jean-Luc Sauron, cette impréparation, cette zizanie, l'idée qu'on va droit dans le mur, ça veut dire quoi ? Les échéances, elles vont être tenues ? C'est-à-dire l'article 50 qui pourrait dégainer, donc, comme prévu, au mois de mars, avec une sortie éventuelle de l'Union, de la Grande-Bretagne,
à partir
en 2019 ?
Où Theresa May déposera sa notification article 50. Il va se passer une horloge de 2 ans. Il y a en mars 2019. Théoriquement, il est possible de prolonger le délai avec un vote à unanimité au sein du Conseil européen. On sait que ça peut être très compliqué. Mais surtout, c'est pratiquement impossible. Parce que mai 2019, c'est les nouvelles élections au Parlement européen avec la nouvelle commission. Il est impensable
qu'on élise des députés britanniques
ou un commissaire. Donc, en réalité, pratiquement, C'était un article qui, franchement, j'avais suivi les négociations à l'époque, qui était fait pour répondre à la volonté, au discours des eurosceptiques, disant on veut pas en sortir, faut en sortir, mais c'est pas préparé.
On attend, il y a un autre écueil, la Cour suprême britannique, qui va trancher, qui va statuer pour dire si les parlementaires britanniques doivent être ou pas consultés sur le Brexit.
Oui, mais ça,
on attend ça d'ici quelques jours. Où est-ce qu'on en est?
Alors, c'est pas un écueil, c'est normalement mi-fin janvier.
Ouais.
C'est pas un vrai écueil parce que la Chambre des communes, tout le monde sait que même ceux qui étaient contre le Brexit, par respect du vote populaire, le référendaire suivront. Il y a le problème de la Chambre des Lords qui sont opposés, mais ça peut se résoudre avec une manip. Donc j'ai remarqué 2017, mais ça, il y a le Brexit, ça c'est évident. Mais vous avez aussi le référendum sur l'autonomie, l'indépendance de la Catalogne.
Tout juste.
Mais vous avez mars 2017 avec les Néerlandais et la menace populiste réelle.
C'est vrai, je rebondis sur ce que disait tout de suite Qatar Abou Diab, l'Union Européenne dans la ligne de mire de nombreux opposants, et on parle du Brexit. Et puisqu'on s'est beaucoup projeté sur 2017, est-ce que ce sera l'année de la montée des nationalistes? Vous utilisiez ce terme, Qatar Abou Diab. Vous parlez des Pays-Bas, en effet, le parti de Geert Wilders, on verra son score, c'est-à-dire l'extrême droite néerlandaise, élection au mois de mars. En avril, on verra ce que fait Madame Le Pen donc en France.
Mais surtout, on verra
ce que fera l'AFD en Allemagne en septembre.
Et ceci sera
les 5 étoiles en Italie aussi.
Ce sera très marqué par le score, par la situation politique de France de mai-juin. Mm. C'est-à-dire que les électeurs français, en fonction de ce qu'ils décideront en avril, mai-juin sur le président ou la présidente et les parlementaires, peuvent totalement, mais emmener l'Europe dans une catastrophe politique, c'est ça. Et je dirais que, pour revenir en boucle avec ce qu'on a commencé au début, le problème migratoire se sont pas arrêtés à l'accord turco-européen. Et il y a des crises au Maghreb, il y a des crises au Moyen-Orient.
Vous la voyez comment cette Europe, là, en 2017? Un mot, un épithète chacun?
Malheureusement, extrêmement confuse et incapable.
En période d'attente, incapable, et parmi, en fait, ça reste un pôle économique, mais ça reste toujours, comme d'habitude, un homme politique, malheureusement.
Allez, en attendant, faites l'Europe, pas la guerre. Voilà ce que vous propose Jean-Luc Sauron, professeur de droit européen à Paris-Dauphine. Merci à vous, Jean-Luc Sauron. Merci, Qatar Abou Diab.
Merci.
Avec nous, enseignant à l'Université Paris-Saclay, consultant au Cahier de l'Orient. C'est fini pour 7 jours dans le monde. Vivement la prochaine.
BFM Business, 7 jours dans le monde.